Bonsoir à tous, je suis Lina-Louise Maréchaux, vous êtes sur le podcast Fleurs d'Avocat et ceci est un épisode solo. Vous savez que depuis quelques mois j'ai décidé de vous servir une fois toutes les deux semaines, tous les 15 jours, un épisode où je prends la parole pour déblatérer sur certains sujets. Et aujourd'hui le sujet est celui de bien vieillir professionnellement. On va y revenir juste après quelques actus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Lina-Louise Maréchaux. Je suis aujourd'hui la présidente de Iris et Tennis, qui est une société de diffusion d'offres de recrutement en cabinet d'avocats, avec un positionnement un petit peu particulier puisqu'on fait plutôt une forme de haut de gamme, pas dans le sens où on travaille que pour des gros clients, mais dans le sens où dans la manière de communiquer sur les offres de recrutement, on fait du quali pour vous permettre à vous, candidats, d'avoir toutes les infos que vous avez besoin d'avoir avant de décider si cette structure mérite que, un, vous fassiez l'effort de lui envoyer un CV et deux, que vous preniez de votre temps pour aller les rencontrer. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas besoin d'aller en entretien pour aller à la chasse aux infos essentielles qui font que potentiellement cette structure est une structure éligible pour que vous alliez y passer un petit peu de temps. Et puis évidemment, côté recruteur, eh bien, on fait le pari que avec une communication sur ces offres de recrutement plus qualitatives, on arrive à attirer des candidats. Alors parfois on arrive à attirer des candidats tout court, hein, parce qu'on a des clients qui faisaient chou blanc tant avec Village de la Justice qu'avec les services de recruteurs, de cabinets de recrutement / cabinets de chasse de tête, et qui ont réussi grâce à nous. Et puis dans d'autres cas, juste d'attirer des profils de qualité. Bref, ceci est le pitch le plus long du monde. Je suis l'anti-exemple du pitch. Sinon, à côté de ça, j'ai donc ce podcast Fleurs d'Avocat qui existe depuis 5 ans maintenant, plus de 5 ans, dans lequel j'ai beaucoup interviewé des avocats bien dans leur robe. Et aujourd'hui, je diversifie. Et voilà, donc globalement, ça c'est qui je suis. Je suis ancienne avocate aussi, si vraiment vous me découvrez aujourd'hui. J'ai exercé la profession d'avocat au barreau de Paris pendant 2 ans et demi. Et je faisais du droit pharmaceutique dans des cabinets d'affaires. Donc, je défendais le diable, comme on dit, les grands laboratoires. Et j'ai raccroché la profession pour plein de raisons. Et peut-être d'ailleurs que ce sera l'occasion d'en parler dans ce podcast. Encore une fois, qui est sous la thématique de la notion de bien vieillir professionnellement. Alors, avant de poursuivre, et j'ai pas du tout fait mes devoirs, je me rends compte, avant de poursuivre cet épisode, je voudrais vous rappeler à toutes et à tous de mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, et sur Apple Podcast également de laisser un avis. Là, pendant que vous m'écoutez, je pense que vous pouvez, si vous ne l'avez toujours pas fait, prendre votre portable sur Apple Podcast. Alors, l'interface est hyper mal faite pour faciliter les choses, mais globalement, vous tapez Fleurs d'Avocat dans votre moteur de recherche, vous cliquez sur l'émission et ensuite, il faut scroller un peu vers le bas et il faut dépasser la partie où il y a des notes. Voilà. Et une fois que vous avez dépassé cette partie, normalement, vous avez la possibilité de laisser un avis. Moi c'est important pour que le podcast continue à être mis en avant par les plateformes et faire en sorte qu'il soit découvert par toujours plus de monde. Et puis vous, c'est un acte de gratitude et ça fait jamais de mal de faire preuve de gratitude envers les créateurs de contenu qui vous nourrissent de choses plus ou moins pertinentes. J'espère faire partie de celles et ceux qui vous apportent des choses intellectuellement parlant plutôt enrichissantes. Dites-moi si c'est pas le cas, parce que ça voudrait dire que je suis vraiment complètement à côté de mes pompes. Mais en tout cas, si vous trouvez que c'est le cas, raison de plus pour Voilà, laissez un petit avis et 5 étoiles et moi c'est du fuel pour continuer à avancer. Une fois que j'ai dit ça, je vous avais dit que je referais un tirage au sort et en fait je n'ai pas fait ce tirage au sort donc je le reporte à dans 15 jours pour la... Je sais pas si je vais dénoncer, je sais, ça se trouve c'est complètement contraire au droit de la consommation. Pour plein de raisons. J'ai eu une semaine, les amis, la semaine dernière. Ça a été un peu la folie côté Iris et Thémis. Donc, je passe dans la partie actu. Ça a été un peu la folie côté Iris et Thémis. On a clôturé donc le mois de mars. C'est notre meilleur mois ever, ever, ever en termes de chiffre d'affaires. Je dis en termes de chiffre d'affaires parce que nous, on a plusieurs objectifs avec Iris et Thémis qui sont nos indicateurs, on va dire, de progression. Bien évidemment, la progression du chiffre d'affaires en fait partie parce que nous ne sommes pas une association loi 1901. Donc, a priori, notre objectif, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires et même d'être rentable. On n'est pas rentable encore, mais c'est quand même notre objectif. Mais au-delà de cette question du chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires dans Iris et Thémis, il vient par les annonceurs, les recruteurs plutôt, qui payent pour diffuser, enfin pour qu'on communique sur eux et sur leur offre de recrutement. Mais on a évidemment d'autres facteurs de succès et parmi ces succès, enfin parmi ces facteurs de succès, il y a le trafic côté candidat, le fait qu'on soit connu des candidats et que ces derniers visitent nos offres parce que bah, plus les candidats nous connaissent, plus ils viennent se renseigner sur les offres qui sont sur notre site internet que nous diffusons et plus nos clients ont de chances de recruter la perle rare pour ben voilà, avec qui ils auront l'occasion de travailler pour les prochaines années. Donc voilà, donc juste pour remettre ça en perspective, ce qui permet de voilà de glisser le mot selon lequel ben c'est bien d'être au clair sur ses objectifs, enfin sur ce qui est important pour la croissance de sa propre entreprise. Enfin, en tout cas, pour ce qu'on considère correspondre à la notion de réussite de sa propre entreprise. Je ferme cette parenthèse. Donc, ça a été une semaine un peu folle. On a fait le meilleur mois de toute notre vie, mais de très très loin. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à maintenant, je pense que notre meilleur mois, il devait être entre 10 et 15 000 euros. Enfin, voilà, entre 10 et 15 000 euros, ça devait être notre meilleur mois. Et là, on a dépassé les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment significativement plus important. Et c'est arrivé tout d'un coup. C'est-à-dire que globalement, tout s'est fait. Enfin, je veux dire, tout s'est fait. On a une première partie du chiffre d'affaires qui s'est fait dans la première quinzaine du mois de mars. Et puis ensuite, on a traversé une sorte de plateau. Et puis la semaine dernière, mardi, mercredi, j'ai eu signature de devis sur signature de devis, enfin prospect sur prospect et signature de devis dans la foulée sur signature de devis dans la foulée. Donc c'était, je savais plus trop comment je m'appelais. Ce qui est évidemment trop cool parce que bah, évidemment plus on a de clients, plus on a de chiffre d'affaires, mais aussi plus on a de clients aujourd'hui, plus on aura de clients dans 6 mois parce que et ça on commence à voir qu'on rentre dans cette. Enfin, ça tout prend du temps dans le business, c'est fou, mais en tout cas, on rentre dans cette phase de développement d'Iris et Thémis. Ça fait un petit moment qu'on y est rentré, mais là, je trouve que ça s'accélère, où ben, en fait, nos clients parlent de nous. Et ça. Enfin, ben, clairement, ça fait du. Ça nous amène des vagues de personnes qui travaillent avec nous. Donc, a priori, si ce schéma se répète, ça devrait du coup pouvoir nous permettre d'accéder à un nouveau niveau de croissance d'ici, allez, mettons, 6 mois. Ben voilà, donc c'est aussi très bien parce que c'est les plantes, c'est les graines de notre croissance future. Et puis ben, l'autre chose, c'est que encore une fois, plus on a de recruteurs, plus on a d'offres de recrutement diffusées, plus on touche les candidats, bien évidemment, plus on touche les candidats qui nous connaissent déjà, mais plus aussi c'est des opportunités d'aller toucher des candidats qui, eux, ne nous connaissent pas encore. Et comme je vous l'ai expliqué, ben, nous, ça fait partie de nos métriques, de suivre notre notoriété et à quel point on est consulté par les candidats. Donc aujourd'hui, les candidats sur Irisé Témis, c'est essentiellement des avocats qui ont entre, on va dire, 0 et 10 ans d'expérience. On touche aussi les élèves avocats, on touche un petit peu plus jeunes, mais on n'a vraiment pas axé notre développement et notre positionnement sur les offres de stage. Aujourd'hui, on a très peu de clients qui viennent nous voir juste pour diffuser une offre de stage. C'est pas là-dessus qu'on est le plus compétitif. Donc, même si quand nos clients prennent une offre de collaboration, eh bien, le package inclut systématiquement une offre de stage. Donc, on a des offres de stage, mais voilà, c'est plutôt des offres de stage de fin d'études. Pour des stages longs, évidemment, école d'avocat, IEJ en parallèle de l'IEJ, Master 2, enfin voilà, on est dans cette tranche-là. Et nous, c'est vraiment le public, voilà, les trois publics qu'on cible, les étudiants vraiment en fin de parcours, d'une part, les élèves avocats, ce qui pour moi est une catégorie à part des étudiants en fin de parcours, et les avocats en exercice qui ont entre, on va dire, 0 et 10 ans de barre et qui sont le plus susceptibles d'être dans une démarche de recherche de collaboration. Et encore, vous voyez, on va dire, sur la fin de cette tranche-là, entre 7 et 10 ans, ça se raréfie en tout cas par rapport à nous, on va dire, la clientèle qu'on cible, mais on pourra aborder un jour la question du recrutement des collaborateurs seniors, mais quand je parle senior, je parle pas de 6 ans d'expérience. Des collaborateurs qui ont 15, 20, 25 ans de barre dans les pattes et qui en fait sont collaborateurs et n'ont aucune velléité d'installation, ni particulièrement d'association d'ailleurs, et qui peuvent aussi être amenés à chercher une collaboration. Bref, je vais pas aborder ce sujet aujourd'hui. Mais personnellement, je trouve que c'est un sujet à la fois sociétalement et aussi, en termes de sociétalement, en général dans la société, mais sociétalement aussi dans ce microcosme, dans cette profession. Comment est-ce qu'on peut faire grandir les gens? C'est un peu en vrai connecté au sujet de bien vieillir professionnellement, mais c'est pas exactement ce que j'ai en tête pour cet épisode. Donc voilà, donc ça a été une semaine un peu folle côté Iris et Témis. Maintenant, il faut qu'on délivre. Donc voilà, donc ça va être une semaine bien dense. Je vais encore me retrouver à reporter à plus tard des choses sur lesquelles je veux absolument avancer, mais je suis rattrapée par la production. Et du coup, j'en viens, c'est un sujet dont il faut que je parle avec mes associés, évidemment, mais j'en viens à la conclusion que peut-être que en fait, on va déléguer ces sujets sur lesquels il faut qu'on arrive à avancer et sur lesquels, compte tenu de cet afflux de clientèle, je ne vais toujours pas pouvoir amorcer le sujet. Évidemment, je nous souhaite que cet afflux de. Enfin, voilà, je nous souhaite qu'on ait dépassé un palier et qu'on arrive à se maintenir à ce palier, à ce nouveau palier, évidemment le dépasser, mais en fait, non, je ne nous souhaite pas de le dépasser tout de suite. Là, si on peut rester pendant 2-3 mois à ce palier, en vrai, c'est bien parce qu'il faut qu'on se structure en conséquence, et on n'est pas encore prêt à aller au palier suivant de croissance. Donc là, comme ça, c'est très bien. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça a été une semaine un peu folle, ce qui fait que, mais en vrai, je commence à me dire que c'est un peu mon habitude, ce qui fait que là, j'enregistre ce podcast, il est tard. quelle heure est-il? Il doit être 22h30. Je sors de mon cours de yoga. Vous savez, je vous tiens pour une sorte de surveillance des gens auprès de qui je me justifie de mon engagement envers moi-même. Donc, je sors de ma séance de yoga, ce qui est très bien. La semaine dernière, je l'ai loupée, ma séance de yoga. C'était pour la bonne chose, parce que c'était pour la bonne cause, parce que ma sœur d'accueil, Sarah, qui a passé un an chez nous, dans ma famille, en 1997, donc moi j'avais 7 ans, était de passage en France et voilà, évidemment on l'a vue, et donc qui est américaine, et elle a passé, comme je vous disais, on l'a accueillie pendant un an. Moi j'étais toute petite, et donc elle était de passage en France avec son mari qui est avocat en compliance, figurez-vous, à Washington, et ses deux enfants, et leurs deux enfants, pardon, parce qu'elle ne les a pas fait toute seule. En fait, j'ai passé la soirée avec elle, on a passé en famille la soirée avec elle mardi dernier, donc, ce qui m'a fait louper le UA. Mais bref, je n'ai pas été hyper aussi assidue à mes contraintes, à mes objectifs sportifs que je l'aurais voulu. En plus, j'ai bougé et tout, et j'ai encore un peu du mal à être une sportive, quel que soit l'endroit. Mais bon, j'ai pas rien fait pendant 15 jours, donc c'est pas non plus l'immense catastrophe. Mais tout ça pour dire que là, on est mardi soir. Il est 22h30 et j'enregistre ce podcast parce que c'est comme ça. Ça fait un petit peu partie des trucs où depuis 5 ans, c'est hyper cadrant de d'avoir ce rendez-vous et de devoir délivrer quoi qu'il arrive. Même si il m'est arrivé, et d'ailleurs récemment, de sauter une semaine parce que vraiment, je m'en sortais pas. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Je vais pas m'étaler dessus, peut-être que j'en ferai un épisode à part entière, mais donc on a emménagé dans un nouveau chez nous qu'on a acheté. Et en fait, comme avant, on était dans un meublé, tous les deux, aucun de nous deux n'avait beaucoup de meubles. Vraiment, on n'a pas beaucoup de meubles chez nous. On a quelques meubles qui nous ont été prêtés, qui sont temporaires, qui nous ont été prêtés par nos familles respectives et qui font le taf de façon temporaire. Il y a un écho de fou dans mon bureau, par exemple, parce que mon bureau est littéralement vide, si ce n'est pour les piles de bouquins qui sont entassées par terre, parce que je n'ai pas encore de bibliothèque pour mes bouquins. Et voilà. Et donc, c'est évidemment, du coup, une partie de mon énergie est absorbée par la question de meubler et décorer. Donc, sachant qu'on est deux, et qu'on n'a pas réussi à faire ce deal de il y a un de nous deux qui baisse les armes et qui confie à l'autre le projet déco. Donc c'est beaucoup de négociations, parce que même si on a des goûts qui se rapprochent, il y a quand même des négociations à avoir sur des histoires d'ameublement, de déco, quoi, en général. Et en fait, il y a une partie de là où on est, on n'a pas eu besoin de faire des travaux avant d'emménager, mais il y a une partie qui pour le coup mériterait d'être travaillée et restructurée pour vraiment optimiser l'espace. Et c'est un projet qu'on a à moyen terme. En vrai, c'est pour dans moins d'un an. En tout cas, moi, j'espère qu'on pourra le faire dans moins d'un an. Donc, c'est plutôt du court terme, mais tout dépend de la notion de court terme et de moyen terme. Vous avez compris l'idée. Et donc, en fait, on a besoin d'un archi d'intérieur. Et un archi d'intérieur, je pense que c'est un peu comme un avocat. Moi, naïvement, je me dis que, un archi d'intérieur, c'est un archi d'intérieur. Vous voyez, il ne doit pas y avoir 1000 subtilités. Et il se trouve que j'ai croisé une fille qui était au lycée avec moi, qui s'appelle Lila aussi d'ailleurs, mais sans S et sans Louise aussi, et qui est archi et archi d'intérieur. Elle a fait une spécialisation en architecture du patrimoine, donc vraiment les monuments classés, etc. Mais quand elle s'est installée à son compte, ses premiers clients, c'était clairement pas des églises à retaper ou des édifices qui incluent du patrimoine. et des équipements publics et tout. Donc, bah, en fait, elle a fait et elle continue à faire. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'architectes d'intérieur parisiens, vraiment le côté en fait, optimisation de petits espaces à Paris et tout. Bref, donc je lui en parle. Et en fait, elle m'explique que, ben, enfin, je lui parle un peu du projet et elle m'explique que, bon, elle n'a pas de bande passante parce que, bon, pour le coup, elle a commencé sa structure il y a quelques années et maintenant, il remporte appel d'offres sur des projets d'équipements publics qui sont ambitieux et dont une bonne partie d'ailleurs répondent à elle, ce qui fait son kiff le plus absolu, donc c'est quand il y a des notions de monuments classés, etc. Et donc, bah voilà, globalement, elle m'a gentiment fait comprendre que nous, notre projet était un trop petit projet pour son cabinet d'architecture aujourd'hui et qu'elle n'avait pas de bande passante pour s'occuper de nous. Et en fait, elle m'explique, mais enfin voilà, faut pas que tu ailles voir n'importe qui parce que en fait tout le monde sait pas faire ça. Genre vraiment prendre un espace qui est pas forcément un espace facile et le réagencer et l'optimiser pour vraiment en tirer le max en termes de capacité et tout. Donc voilà, donc en ce moment on est dans cette question-là. Donc elle m'a dit, écoute, le plus simple c'est que toi tu me soumettes des personnes et que moi je regarde un peu. Elle n'a pas voulu me donner de nom en fait, ce qui est un peu frustrant, j'avoue. Mais bon, je pense probablement des raisons pour ça. Et donc en ce moment, on est dans le délire de trouver la bonne personne pour nous accompagner sur ce projet de réagencement. Donc bon ben bah voilà là j'ai entre les réseaux sociaux, clairement les réseaux sociaux sont vos meilleurs amis, clairement aussi les sites internet ont une influence énorme, clairement les archives d'intérieur sur lesquelles on a très peu de visibilité sur les projets qu'ils ont réalisés, ça donne pas très envie de les contacter. Donc voilà, c'est assez intéressant. Vous savez, moi j'adore observer les processus d'achat et c'est assez intéressant de rentrer là-dedans. Et dans toute cette logique, et c'est le point où je voulais en venir, même si on n'est toujours pas rentré dans le sujet de vieillir professionnellement, mais bon, pourquoi pas. Dans le point où je voulais en venir, c'est que au-delà de cette question de cette zone spécifique qu'on veut réagencer, il y a d'autres pièces dans notre chez nous que on veut, enfin sur lesquelles on se pose des questions de déco assez existentielles du genre refaire la peinture, oui mais dans quelle couleur, sachant que ben, on voudrait. Enfin, on est inspiré par des choses qui ont pas mal de caractère, mais on a peur de se mettre dans. Enfin, on a peur de faire des choix beaucoup trop, entre guillemets, audacieux et difficiles à rattraper derrière. Et donc voilà. Et puis, ben, en plus de ça, il faut se mettre d'accord. Et puis, bon, bref, il y a tout ça. Et en fait, j'en suis un petit peu venue à la réflexion l'autre jour et sur ces sujets-là, on réfléchissait aussi à se faire accompagner. En fait, je ne sais pas si c'est du petit coaching d'éco-spot ou si c'est la même personne qui pourrait aussi nous aider sur quelques décisions en dehors de la zone vraiment à retravailler, qui sont presque plus des décisions d'éco que des décisions, que de l'architecture pure, quoi. Et en fait, je me faisais la réflexion l'autre jour que, en l'occurrence, c'est vraiment la configuration où on achète un professionnel pour déléguer la prise de décision. Vous voyez, là, c'est même pas genre faire pour nous, faire, parce qu'on n'a pas la compétence. Il y a bien évidemment l'aspect, entre guillemets, être conseillé parce qu'on n'a pas la compétence ou qu'on a une compétence tout à fait perfectible. Mais il y a aussi le côté délégué à quelqu'un qui aura, entre guillemets, la forme d'autorité pour que dans notre couple puisse y avoir une personne extérieure en qui on aurait d'une certaine façon délégué l'autorité d'avoir les bonnes idées. Enfin, je l'exprime très mal, mais en fait, plutôt que ce soit qu'on soit entre nous des amateurs total de décoration d'intérieur en train de, bah, de débattre et de négocier entre nous sur des sujets sur lesquels en fait aucun de nous deux n'a vraiment une compétence significativement plus légitime et crédible que l'autre, et bien en fait de se dire, bah, plutôt que d'arbitrer entre nous, alors qu'en fait voilà, de placer l'autorité sur un tiers qui du coup dira, bah oui, c'est une bonne idée de faire comme ça, ou non, c'est pas du tout une bonne idée de faire comme ça. Et en fait, la deuxième personne, qu'elle soit entre guillemets, la personne qui aurait été d'accord avec cette idée ou pas, elle, du coup, une forme de soumission à une autorité extérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que ça doit rejoindre certains d'entre vous, avocats, qui parfois avaient une activité où presque ce qui est acheté, c'est la signature, c'est l'assurance, vous voyez. Je pense notamment si vous travaillez avec des entreprises où il y a des directions juridiques, où il y a des juristes en interne. Et puis en fait, peut-être que vous n'avez pas le pouvoir d'autorité en interne qui fait que bah, quand vous dites quelque chose, on vous écoute sans ciller et sans sourciller, et que vous vous retrouvez à devoir faire appel à des avocats pour, entre guillemets, pour externaliser ce côté prise de responsabilité. Enfin voilà, bref, ça m'a fait réfléchir à tout ça et ça m'a fait sourire. Je vous donnerai des nouvelles de l'avancement de ces histoires. Un, quand on aura trouvé la bonne personne. Deux, évidemment, en follow-up de comment on a vécu le truc. Et puis accessoirement, comment notre projet évolue. Bref, mais promis, mon Instagram ne se transformera pas en Instagram de travaux, parce que même si parce que j'ai pas cette discipline là, mais voilà. Bref, donc c'était une introduction beaucoup trop longue sur mes actualités et des micro-réflexions du moment. Là où je voulais en venir, c'était donc sur ce sujet qui est le sujet de bien vieillir professionnellement. Alors, bien vieillir professionnellement, moi c'est un sujet qui m'occupe pas mal. C'est un sujet qui m'occupe pas mal, et d'autant plus que, alors je veux pas faire la fausse vieille justement, ça va faire partie des trucs, mais je vais avoir 35 ans au mois de mai, et 35 ans c'est pas 22, mais c'est pas 50 non plus, vous voyez, il y a une sorte d'âge adulte, c'est genre l'adulte, une sorte d'âge adulte qui est ni l'âge adulte hyper confirmé, ni l'âge adulte tout naissant. Et en fait, je suis confrontée par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui, lui, est salarié dans un cabinet de conseil, à des big boss qui n'ont clairement pas su bien vieillir professionnellement. Et alors, je suis sûre qu'il y en a, il y a plein d'entre vous qui allez vous... Enfin, ça va vous faire penser à des gens. Et moi, il se trouve que du coup, je suis un peu sortie du circuit. Enfin, j'ai un poste d'observation qui est différent maintenant que j'ai quitté les structures et que j'ai... Enfin, voilà, que j'ai pas de patron et j'ai pas de collaborant. Et je suis plus dans une structure où je peux, entre guillemets, observer ces choses-là vraiment directement de l'intérieur. Et j'ai des gros biais, parce que souvent, quand je rencontre des gens, c'est sous un prisme assez feel-good et assez valorisant, quoi. Donc je suis plus le premier témoin de ces sujets-là. Mais je le suis donc à travers cet ami qui, lui, est salarié dans un cabinet de conseil, avec trois boss qui ont mal vieilli professionnellement. Et alors vraiment, ça m'a nourri cette espèce de truc de me dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est que de bien vieillir professionnellement, quoi ? Comment est-ce qu'on vieillit bien professionnellement ? Et c'est vraiment pas un sujet. Je trouve que c'est pas un sujet facile. Et j'aurais probablement pas la réponse d'ailleurs à ça. Mais je trouve que du coup, à défaut d'avoir la réponse, je trouve que c'est bien de pouvoir avoir ce warning en soi, qui fait partie des warnings de conscience de soi au global, hein. Mais ce warning en soi de la vie est longue et il y a plusieurs étapes, et la vie professionnelle répond aussi à ces principes, et de potentiellement pas se tromper de posture selon les étapes. Et bref, on va y revenir. Donc, qu'est-ce qui fait que je dis que ces personnes-là ont mal vieilli professionnellement ? Eh bien, c'est vraiment des gens qui n'ont pas su faire évoluer leur posture au fur et à mesure que leur entreprise a évolué elle-même et au fur et à mesure que la société et les technologies ont évolué. Donc je pense qu'ils ont tous, on va dire, fin de quarantaine ou dans la cinquantaine. Voilà, ils sont pas encore dans les quelques années pré-retraite. Mais c'est plus des jeunes associés de 38 ans qui viennent de monter leur boîte et qui sont tout fringants, vous voyez. Donc c'est un cabinet de conseil qui est pas un énorme cabinet de conseil, mais qui est quand même un cabinet de conseil assez confirmé, où il y a une cinquantaine de personnes, qui a une bonne réputation, des clients prestigieux, enfin voilà. Et alors, il y a un associé dont je comprends que dans ses jeunes années, c'était un peu un gourou, quelqu'un qui était hyper admiré, qui était hyper visionnaire et extrêmement avant-gardiste sur certaines technologies. Et qui maintenant ne répond plus du tout à tous ses qualificatifs. Et qui en fait... de ce que je comprends de l'extérieur, hein, a l'air de se chercher une raison d'exister dans la boîte, enfin de vrai, et donc la trouve dans des espèces de trucs juridico-comptables, administratifs, mais c'est même pas quelqu'un qui fait vraiment de la gestion, vous voyez, plus qui émet les factures avec des outils qui sont complètement dépassés, quoi, technologiquement parlant. Qui valide plein de petits trucs, vraiment qui, on sent qu'il a complètement lâché la rampe d'un réel management et surtout d'une réelle production envers les clients et que voilà, il s'est trouvé une sorte de raison d'exister à la fois en étant sur des trucs qui sont indispensables à la boîte parce que effectivement il faut qu'il y ait des factures qui puissent être émises et il faut que il y a des sujets un peu administratifs qui avancent et tout transite par lui, et en même temps qui pourraient complètement être des sujets délégués à un comptable, à un service RH, voire à une assistante, ou à un assistant, pour ne pas genrer les choses. Donc il y a ça. Vous avez un autre associé qui, lui, pour le coup, est assez charismatique et qui prend le plus en charge le management et qui a encore les mains dans le commercial et qui survend beaucoup de choses et qui manage des gens d'une façon un peu comme s'il... c'est difficile à décrire, mais vous savez, quand vous avez des quand les collaborateurs en fait ont atteint un degré d'autonomie qui est tel que en fait vous avez plus besoin de les cadrer, de les micro-cadrer et tout, mais on sent que il y a quand même un besoin de ça, quoi, un besoin de mettre du cadre pour mettre du cadre, peut-être pour rappeler qu'on est le boss, peut-être, enfin voilà, donc un petit peu ça. Et encore un autre associé, qui a l'air absolument convaincu lui-même que il est capable de d'avoir des, enfin voilà, de conseiller les clients sur des sujets, sur des technologies de rupture, mais sur l'implémentation de ces technologies de rupture dans les entreprises. D'être attaqué sur le fond, quoi, alors qu'en fait pas du tout. qui est aussi largué sur le commercial, enfin qui est un peu largué sur tout, mais qui a pas l'air de, on sait pas trop s'il s'en rend compte ou pas, il est pas particulièrement respecté de ses équipes, il est apprécié dans le sens où c'est pas un... c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est vraiment respecté, pour même pas aller sur le terrain de l'admiration, mais juste du respect professionnel de un associé, voilà. Et en fait avoir ces discussions sur cette situation, moi ça m'a fait dire, mais par pitié, j'espère ne jamais devenir cette cinquantenaire qui est encore dans la vie professionnelle, évidemment, mais qui est largué, quoi, qui est largué sur le fond, qui n'a pas réussi à trouver sa place par rapport aux besoins de son entreprise et du coup à l'évolution de sa propre place dans une entreprise. Et voilà, de lâcher sur certains trucs, d'accepter qu'on ne sera plus la bonne personne pour certains trucs, d'accepter que d'autres ont pris un rôle que hier on avait, et d'arriver à trouver en fait une autre posture dans tout ça et à apporter de la valeur ajoutée, et à quand même apporter de la valeur ajoutée, parce que bah, en fait, bien évidemment qu'il y a de la valeur ajoutée à apporter quand on. Quand, enfin, si on. A priori, si on s'est bien débrouillé, quoi, et si on a bien évolué professionnellement parlant. Et donc, moi, ça m'a fait un gros. Enfin, voilà, ça, c'est un truc. Peut-être, c'est peut-être des sujets qui se sont allumés dans ma tête il y a, je sais pas, il y a peut-être un an ou un an et demi. Et qui m'ont vraiment planté la graine de attention à bien vieillir professionnellement. Et vous savez, c'est comme. Alors pardon, ça va être. Je suis sûre qu'il y a des équivalents pour les hommes, mais c'est comme. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de croiser, par exemple, des familles. Moi, je pense par exemple à des binômes mère-fille qui vont faire du shopping et des mères qui s'habillent encore comme des adolescentes, vous voyez. Et on se dit, mais ben. Il y a des postures et des costumes et des styles qui sont OK quand on a 14 ans et qui, en fait, deviennent un peu pathétiques quand on en a 40. Et c'est un peu cette même logique appliquée au monde professionnel. Et d'un autre côté, l'autre posture n'est pas bonne non plus. C'est-à-dire, vous avez 22 ans et, en fait, vous êtes, d'une certaine façon, vieux avant d'être vieux. D'être vieux avant d'être vieux, tout simplement, ce n'est pas non plus forcément c'est pas non plus la solution au problème, loin de là. Je sais pas si j'ai un énorme dénouement en réalité à vous apporter là-dessus, parce que je pense que c'est plus une graine que je voulais poser. Moi, ce que je vois, entre guillemets, et là, je vais peut-être plus partir sur un prisme d'observation. C'est peut-être à la fois un prisme d'observation de développement et à la fois un prisme d'observation RH, d'ailleurs. C'est typiquement, par exemple, au stade de la communication, on veut faire cool, donc on essaie de se mettre sur certains réseaux sociaux. Mais en fait, on n'a pas les codes et on ne se fait pas conseiller par les personnes qui ont les codes. Et en fait, ça crée des trucs qui sont juste. Qui tombent complètement à côté, quoi. Donc, ça, c'est sur le plan de la communication. Et ça, j'en vois beaucoup. Je ne suis pas trop sur les autres réseaux sociaux, mais sur Instagram et sur LinkedIn, j'en vois vraiment beaucoup. L'espèce de dénigrement de ce qui vient après soi. Alors ça, par exemple, je vous donne l'exemple typique auquel j'ai été confrontée, directement ou indirectement. C'est les associés seniors de cabinet, y compris de cabinet. Enfin, je pense notamment à des grands cabinets d'affaires, mais je pense que c'est pas le seul espace. Qui vont complètement dénigrer LinkedIn et qui vont vous expliquer que en fait le développement ça se fait pas comme ça, que eux c'est pas comme ça qu'ils ont développé et que enfin bref que ça se fait pas comme ça et que le vrai développement bah, c'est d'aller déjeuner, c'est les petits déjeuners, c'est je sais pas quoi, les conférences, le réseautage, enfin qui sont complètement restés kéblo dans les codes de développement du moment où eux ont fait un gros step-up de développement, on va dire. Et qui, du coup, portent cette espèce de regard plein de jugement sur des plus jeunes associés ou des councils ou des collaborateurs qui se saisiraient de cet outil bref, je ne reviendrai pas sur la collaboration libérale, mais voir censure en fait ces personnes-là dans leurs initiatives, parce qu'elles comprennent pas les opportunités derrière cet outil et du coup elles font blocus parce que pour elles c'est pas comme ça. Ce qui est terrible parce que en fait typiquement c'est, enfin moi je suis convaincue que les associés de 50 ans et plus, ils ont des opportunités de développement de maboule sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais je pense à LinkedIn en particulier, surtout dans B2B, dans le monde des affaires. Parce que, en fait, du coup, ils cumulent tous les avantages, quoi. Ils cumulent la clientèle qu'ils ont déjà, l'assise qu'ils peuvent avoir du haut de toutes leurs années d'expérience, de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont appris, de toutes les situations auxquelles ils ont été confrontés et qui font que leur analyse, leur regard sur leur expertise est hyper pointue et folle de qualité, quoi. Enfin, s'ils se sont maintenus à la page, évidemment. Et avec la capacité de reach en termes de visibilité que peut offrir ces plateformes et voilà. Et en fait, à un moment, on va pas se mentir, c'est le reach, enfin ce reach qui permet de faire, enfin qui contribue au fait de faire grossir un gâteau, quoi. C'est Sarah Ouiss que je vous invite tous à suivre, qui est super et qui est hyper efficace sur LinkedIn d'ailleurs, qui disait dans une communication il n'y a pas longtemps, donc Sarah avec un H je crois et Ouiss, O-U-I-S, qui disait tous ces cabinets d'avocats, d'affaires qui dépensent des fortunes colossales pour organiser des déjeuners, des petits déjeuners, des trucs et des machins. Et qui vont au mieux réussir à toucher 10, 20 personnes et qui regardent de façon complètement hautaine des outils comme LinkedIn, alors que à temps investi égal ou à encore plus argent investi égal, ils pourraient toucher beaucoup plus de monde. Alors, c'est pas forcément exactement la même qualité de contact. Mais ça reste sur la répétition, ça reste imbattable, quoi. Bref, donc ça me fait penser à cette, enfin voilà, typiquement ça fait partie de ces exemples et je pense que ça, enfin c'est aussi pour ça que c'est hyper important de travailler avec des gens qui sont plus jeunes que soi. Et deux, aussi de se faire conseiller par des acteurs qui sont qui se positionnent aussi sur certaines technologies de rupture et en mode les petits jeunes qui ont compris, qui ont hacké une technologie de rupture et qui vont la hacker et la saisir et la comprendre réellement beaucoup plus vite que une ancienne structure potentiellement vachement bien établie, mais qui pourrait mettre beaucoup plus de temps à se positionner sur des nouvelles problématiques, parce qu'en fait, elle est déjà hyper bien alimentée par les premières problématiques sur lesquelles elle s'est positionnée, vous voyez ? Donc je pense que l'équivalent en marketing, c'est probablement que quand TikTok venait tout juste de démarrer, et voilà, moi je suis pas allée sur TikTok parce que j'avais pas les moyens de me dire ok, allez, je vais aller là-dessus, je vais m'auto-former dessus et je vais déléguer le truc à quelqu'un qui m'aidera à m'onboarder sur le truc. Mais probablement qu'au tout démarrage, le plus smart, c'était d'aller vers des toutes petites agences TikTok plutôt que des agences traditionnelles de SMA qui probablement vendaient du TikTok sans vraiment en faire. Vous savez, un peu comme tous ces cabinets d'avocats qui... qui vendent, qui se positionnent sur des trucs qu'en fait ils font pas, mais c'est juste les bons mots-clés, quoi. Pensez à tous ces cabinets d'avocats qui prétendent avoir une expertise poussée sur des sujets de crypto, blockchain, etc. Et puis en fait, enfin, ils en ont jamais vraiment fait, mais ils le vendent parce que bah, enfin, voilà, faut bien se positionner aussi dessus pour pas passer à côté de la vague. Mais les vrais acteurs de ce milieu savent qui sont les 4-5 interlocuteurs qu'on retrouve toujours dans les deals et sur les dossiers. Et voilà. Donc, cette notion de bien vieillir professionnellement m'occupe. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs décidé de faire évoluer le podcast. Puisque, alors, sauf les épisodes solo, ne serait-ce que parce que pour le confort de pouvoir les enregistrer devant ma cheminée, et je me sens. Enfin, j'ai pas le studio d'enregistrement pour cette logistique-là me dépasse un peu. J'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais en tout cas, les interviews, la partie interview du podcast maintenant va passer en mode filmé. Bah parce que je vois bien que l'ère du podcast audio, et c'est pas que l'ère du podcast audio est révolue, parce que je pense qu'il y a encore énormément de consommateurs de podcasts audio. Sans aucun visuel, moi j'en fais partie et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres qui veulent juste le son parce qu'ils écoutent un podcast en conduisant, parce qu'ils écoutent un podcast en faisant le ménage, en se promenant, enfin bref. Tout ça. En revanche, au niveau derrière du marketing, de la communication sur le podcast et la communication sur le contenu créé, elle est aussi, voire plus importante que la création du contenu en elle-même, ben en fait, je vois bien que ça devient la norme de pouvoir communiquer avec des vignettes, enfin voilà, des petits montages, des vignettes sympas et tout machin pour pouvoir monter d'un cran en termes de communication sur les podcasts. Ça devient entre guillemets un nouveau standard. C'est aussi du coup un standard. Qui, je pense, d'une certaine façon, devient un avantage aussi pour les invités, parce que bah, les invités sont aussi de plus en plus conscients de l'importance de leur propre communication sur les réseaux, et donc pouvoir leur fournir ce type de support pour leur propre communication, bah, c'est précieux aussi. Ça devient un argument d'invitation de plus, au-delà juste d'un média qui parle d'eux et qui est une tribune pour eux. Et donc, j'ai passé le pas et croyez-moi, j'ai freiné des cas de fer parce que franchement, j'avais 1000 croyances limitantes autour de ça. Les avocats, enfin voilà, que ce sera. Ça veut dire que c'est en studio, donc c'est plus moi qui me déplace dans le cabinet, c'est eux qui se déplacent en studio. Est-ce qu'ils vont être OK pour faire le déplacement? Enfin voilà, c'est entre guillemets, ça les monopolise un petit peu plus de temps. Est-ce que je vais arriver à avoir la même qualité conversationnelle et intimité dans un concept, enfin dans un cadre où bah, il y a des projecteurs et il y a, enfin voilà, il y a des projecteurs, il y a quelqu'un en post-prod derrière qui surveille que tout se passe bien au niveau de la captation du son et des caméras. Il y a des caméras. Est-ce que les gens vont pas être un peu soucieux de leur image? Ah, mais du coup, je suis bien coiffée, je suis mal coiffée. Et je dis ça, enfin franchement, j'ai fait mon premier enregistrement en studio. Pas plus tard qu'hier, qui sera diffusé la semaine prochaine. Et voilà, et bon, on était lundi 1er avril. Le matin, j'avais eu un tournage, j'étais genre méga bien sapée. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais pas m'habiller pareil le matin et la. Enfin, parce que du coup, ensuite, enfin, l'idée, c'est pas que partout où vous me voyez, je sois habillée de la même manière, quoi. Donc, et en fait, j'ai pensé qu'après, au côté, bah, j'ai pas prévu de tenue, genre, bien, bien pour le podcast aussi. Donc, je suis en mode à l'arrache, je suis en jean, t-shirt, grosses boots. Bon, j'ai quand même mis une. Enfin, voilà, bref. Et donc, ça pose toutes ces questions, en fait. Vous voyez, ça rajoute un niveau de complexité. Et quand je vous disais, d'ailleurs, vous vous souvenez, bien vieillir professionnellement, ben, y a aussi le côté, enfin, entre guillemets, la maman qui s'habille encore comme son ado. Et en fait, bah non, au bout d'un moment, tu fais évoluer ton style, toi aussi. Et donc moi-même, je me dis, mais d'ailleurs, est-ce que c'est encore OK que professionnellement, je puisse être aussi décontractée en fait, voilà, pour shooter un podcast en t-shirt basique et jean. Tout ce qu'il y a de plus basique et boots. Vous allez me dire, c'est tout à fait rock, mais voilà. Bref. Et donc, ça pose, en fait, vous voyez, toutes ces questions-là. Donc, mon invitation à votre égard, c'est de vous poser la question de comment est-ce que vous voulez vieillir professionnellement. Est-ce que vous avez des anti-exemples autour de vous, des gens qui ont mal vieilli professionnellement? Ah oui, et ça m'amène à autre chose, une autre anecdote personnelle. J'ai eu au téléphone, il n'y a pas longtemps, l'associé d'un avocat auprès de qui j'ai fait un stage en 2015. Cet avocat, quand j'ai fait ce stage, il avait la cinquantaine bien avancée, voire il était rentré dans la soixantaine. Et bref, son associé donc que j'ai au téléphone me dit, mais alors vous, vous êtes plus du tout avocate. Et je dis, bah oui, effectivement, je ne suis plus du tout avocate. D'ailleurs, note à part, c'est quelqu'un qui lit ma newsletter et qui n'était pas sûr que je sois plus du tout avocate. Donc c'est la preuve que vous ne répétez assez jamais, enfin jamais assez les mêmes messages sur votre communication, les messages que vous voulez imprimer auprès de... Enfin, je sais pas si j'ai attiré un soin particulier, mais moi j'ai l'impression que c'est un truc qui est évident et que je répète tout le temps. Et puis en fait, manifestement, il y a des personnes qui sont pas tant au courant que ça, que je ne suis plus avocate, donc c'est que j'ai encore de l'espace pour le dire. Bref. Donc tout ça pour dire que il me dit, ah mais écoutez... non, mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant parce que moi, je me souviens bien de vous quand vous étiez. Enfin, voilà, on n'a pas travaillé, vous n'avez pas travaillé pour moi, on n'a pas travaillé ensemble, mais je me souviens que cet associé parlait de vous et vous décrivait comme une jeune femme tout à fait brillante et qu'il était d'ailleurs un petit peu décontenancé par ça, quoi, par cette jeune génération que vous représentez et que vous incarniez de jeunes professionnels brillants, ambitieux, qui en veulent, qui sont conscients de leurs compétences et qui prennent les dossiers à bras le corps et voilà et tout ça. Et que vous aviez tout à fait le profil. Moi, je vous voyais ensuite évoluer, aller dans des grands cabinets américains qu'est-ce qu'il utilisait comme expression? Dominer le monde du haut de vos loups boutins, etc., etc. Et je lui ai dit, c'est rigolo que vous disiez ça parce que c'est d'ailleurs tout à fait probablement comme ça que je me projetais moi-même. Premièrement, en loup boutin, ce qui n'est plus du tout un objectif de vie, comme vous l'avez compris, je ne jure que par mes boots. D'ailleurs, je suis désespérée parce que j'ai appris que Bâche avait arrêté de produire ce modèle qui était un de leurs classiques jusqu'à maintenant, et j'en étais à ma deuxième paire. Et voilà, je pense que j'aurais pu faire le reste de ma vie dans cette paire de boots, en les remplaçant quand elles étaient. Quand trop fatiguée et bref et donc voilà et en fait on a poursuivi un petit peu la discussion. Je dis j'ai switché etc etc et il me dit en fait enfin il me partage justement cette difficulté à bien vieillir professionnellement qu'a eu cet associé. Ils ne sont aujourd'hui plus associés et d'ailleurs ça a contribué à faire éclater la structure parce que c'est aussi quelqu'un qui n'a pas accepté de laisser sa place et de rentrer dans une phase de transmission. C'est-à-dire, je ne vais plus être la rising star, je ne vais plus être la personne en vue, l'interlocuteur dans les dossiers. Enfin, si, je peux rester l'interlocuteur, mais en tout cas, je suis plus la star, quoi. Je suis rentrée dans une autre phase de ma vie. J'ai encore des choses à apporter, mais je suis rentrée dans une autre phase de ma vie. Et typiquement, bah, ils avaient recruté je sais plus si c'était une collaboratrice senior, mais dans une dynamique de passation de clientèle, ou une jeune associée, mais en tout cas, il y avait une forme de deal de. Elle traite une partie des dossiers qui sont générés par cette associée, mais entre guillemets, la clientèle de cette associée devient sa clientèle. Il y a une vraie logique de transmission, de passation qui est faite. Et en fait, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté cette situation. Et du coup, il s'est mal comporté avec cette avocate en question. Et puis ça a fini par faire imploser la situation. Et c'était. Enfin voilà, cet associé en parlait avec beaucoup de tendresse parce que je pense que c'est un associé pour qui il avait de l'amitié, mais il a pu, entre guillemets, observer la crispation qui s'est faite autour de cette difficulté à évoluer professionnellement, à bien vieillir professionnellement et en fait, à reconnaître la phase dans laquelle on est de sa vie et de sa vie professionnelle et à adopter la posture qui va avec. Et à l'embrasser en fait, et à se dire en fait il faut que je sois à fond, enfin par rapport à là où j'en suis, il faut que je sois à fond dans cette phase-là. Ce qui m'amène à vous dire d'ailleurs que, enfin voilà, nous on est confrontés à ça avec Iris et Témis, hein, des personnes qui sont plutôt entre guillemets en fin de carrière. Dans la dernière dizaine d'années de leur carrière, voire moins. Et donc forcément, se pose la question du recrutement. Donc, enfin voilà, en tout cas, nous, notre approche, quand on discute avec nos clients, c'est pas juste d'être dans un recrutement court-termiste. Il faut pourvoir les 6 prochains mois parce que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, on s'ancre dans des relations qui, a priori, sont des relations qui vont qu'ont vocation à être durable, alors pas forcément forever, et d'ailleurs les collaborateurs en ont pas forcément envie, mais en tout cas de voir s'il y a de la durabilité à aller chercher dans les relations, parce que s'il y en a, ça se met en. Bah c'est pareil, ça s'explique, ça se présente, et ça peut être un facteur d'attractivité pour tout un certain nombre de talents. Et je suis assez surprise du nombre de structures, et voilà, de recruteurs qui, alors même que vraiment la question de la transmission est d'actualité, parce qu'une transmission, et ça c'est un sujet dont j'ai parlé avec une consultante qui s'appelle Caroline Neveu, dans un cabinet de conseil qui s'appelle Jury Management. Avec qui on a notamment pas mal échangé dans le cadre de la levée de fonds d'Iris et Témis. Et qui nous qui enfin c'est un cabinet de conseil dont une bonne partie de l'activité consiste justement dans le fait d'accompagner des structures enfin des cabinets d'avocats à se structurer pour organiser, on va dire, une transmission, que ce soit par une cession financée ou non, enfin, mais en tout cas, organiser ça. Et voilà, il y a se structurer en vue de ce départ. Attendez, il faut que je remette une bûche dans le feu. Oui, parce que vous savez que enfin, notamment si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon immense kiff, c'est que j'ai désormais une cheminée et que du coup, c'est ma vie, les feux de cheminée, j'adore ça. Donc voilà. Tenez, je vous fais kiffer un petit peu le crépitement du feu parce que ASMR. Voilà, comme ça, on est vraiment complètement ensemble. Et bref, et elle expliquait, revenons-en à nos moutons, elle expliquait qu'une bonne transmission, c'est une transmission qui nécessite de s'organiser sur 3 ans. Et ça, ça n'inclut pas, on va dire, la prestation de conseil initiale, c'est-à-dire le début de la réflexion de je vais rentrer en dynamique de transmission. C'est vous identifier un repreneur. Ou en tout cas une personne à qui vous allez passer le témoin Et voilà, et pour optimiser les chances que cette succession s'organise dans des bonnes conditions, se passe bien et qu'elle se passe bien, y compris enfin pour le repreneur, mais bon, enfin ça peut avoir un impact aussi pour le cédant. Dans l'idéal, il faut prévoir bien 3 ans de tuilage, en fait. C'est énorme, 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est à la fois court et à la fois énorme. J'ai encore laissé refroidir mon thé, voilà. Et donc voilà, là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que cet après-midi, j'ai parlé avec une cliente dont on va diffuser l'offre, je pense, avant le prochain épisode, solo en tout cas. Ça m'a fait trop plaisir parce que c'est pas du tout une avocate qui est dans vraiment ces 5 dernières années de carrière, mais qui est plutôt, on va dire, qui a plutôt autour de 50 ans qu'autour de 40. Et donc ils sont 3 associés maintenant, mais initialement ils étaient 2. Dans cette tranche d'âge. Et elle explique que là, ils ont fait monter un associé qui était son collaborateur à elle initialement. Et elle dit, même s'il n'avait pas encore, même s'il a pas la force commerciale qui fait qu'il apporte autant en chiffres que nous, et il a vraiment son développement est à faire, en fait. Et surtout que c'est pas un profil dont la qualité première est la chasse de nouveaux clients. Nous, on se rendait bien compte qu'on commençait à rentrer dans un gap générationnel où autant nos interlocuteurs dans les boîtes qui sont nos clientes, nous, on a l'âge des dirigeants, des big boss, ou des fondateurs ou des dirigeants, voilà. Autant les responsables juridiques ou directeurs, directrices juridiques qui sont les interlocuteurs stricto sensu pour les affaires juridiques, donc c'est en immobilier et construction, en l'occurrence cette offre, cet associé qu'elle intervient pour des clientèles des promoteurs, des foncières, des acteurs privés plutôt, on va dire, gros acteurs. Et elle dit, mais en fait, ils n'ont pas notre âge, en fait, les responsables juridiques et les directeurs juridiques. Ils ont beaucoup plus l'âge de l'ancien collaborateur qui est devenu associé à la rentrée en janvier. Et en fait, ça faisait partie de ça, quoi. Ça faisait partie de ce changement de positionnement, de se dire, il faut aussi qu'on adapte les interlocuteurs, et y compris en termes de titres, ne serait-ce que par rapport à qui sont nos clients, comment ils sont structurés. Et c'est une forme de capacité de bien évoluer professionnellement, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est d'accepter que la génération a changé. Et que c'est pas tout de se dire j'ai le grappin sur un client parce que voilà, mais il y a aussi la structuration de ce client qui a évolué, et en fait qu'est-ce qui est le plus pertinent en termes d'interlocuteur en front, et de personnes à mettre en avant et tout ça. Et j'ai trouvé ça super super chouette, et c'est intéressant que je l'ai eu en rendez-vous cet après-midi. Parce que ça me donne le bon contrepoids par rapport à l'anecdote que je vous disais juste avant, au contraire d'un associé qui, lui, n'a pas su faire cette passation de témoin, faire monter quelqu'un et la faire briller à sa place, et se dire est-ce qu'il veut pas dire qu'il arrête de travailler. Typiquement, elle continue à travailler, elle continue à produire, et d'ailleurs le cabinet est en super croissance, et d'où le recrutement. Mais voilà, écoutez, c'était mes réflexions. Je suis désolée de pas avoir, je sais pas si je suis désolée, mais en tout cas c'est pas un sujet sur lequel, vous voyez, je peux venir avec des solutions toutes faites, parce que il y a, bien évoluer professionnellement, c'est encore une fois, c'est comment est-ce qu'on adapte sa posture par rapport aux besoins de son propre business, et puis aussi par rapport à son, enfin voilà, à la fois par rapport à son âge, par rapport aux besoins de son business, par rapport à ses interlocuteurs, il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait il n'y a pas une réponse seule et unique à cette question de comment est-ce qu'on évolue bien professionnellement. Il y a juste peut-être ce warning à avoir en tête, enfin cette graine à planter de se poser la question, est-ce que je suis en train de devenir has-been, sur quoi est-ce qu'il faut que je lâche, au contraire sur quoi est-ce qu'il faut que je me positionne, entre guillemets, qu'est-ce qui n'est plus de mon âge, qu'est-ce qui est de mon âge, mais encore une fois pas pour être vieux avant l'heure quoi, parce que c'est tellement c'est tellement dans la tête j'ai tellement le souvenir de plein d'interviews avec des personnes qui me semblent avoir hyper bien évolué professionnellement. Là, comme ça, en vous en parlant, je pense par exemple à Olivier Frégé. Je pense l'interview que j'ai diffusée la semaine dernière. Il est encore jeune, il doit avoir dans la quarantaine, mais avec Fabrice Epstein. Je pense à... Enfin voilà, bref, il y en a plein des gens qui me semblent avoir bien évolué professionnellement, en tout cas dans le podcast, et c'est trop cool. Mais voilà, peut-être graine à vous-même de vous poser la question de ce que ça veut dire pour vous bien évoluer professionnellement. Est-ce que, si vous faites aussi votre propre diagnostic, est-ce que vous pensez avoir bien évolué professionnellement? Moi, par exemple, je pense que d'une certaine façon, il faut que je dis ça en pleine autocritique, hein. Je pense que sur certains sujets, j'ai besoin de level up, j'ai besoin de gagner en cran de maturité, que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes de plein de choses. Et voilà, est-ce que vous estimez avoir bien vieilli professionnellement, être resté agile intellectuellement, ouvert aux innovations, ouvert à l'évolution de la société aussi, aux nouvelles attentes des collaborateurs, des clients, à tout ça. Et si vous êtes plutôt encore jeune, comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous arrivez à... Parce que personnellement, c'est des questions que je me pose récemment et que peut-être j'aurais même posé plus tôt. Quand vous vous projetez dans votre développement de carrière, et même si ce développement peut changer, et encore une fois, j'en suis... l'exemple de j'étais dans une trajectoire pour dominer le monde du haut de mes Louboutins versus ce n'est plus du tout la trajectoire dans laquelle je suis. Ça me va vraiment très très bien, c'est pas du tout par dépit. Mais voilà, est-ce que dans cette progression, vous vous posez cette question-là aussi de qu'est-ce que ça veut dire de bien vieillir professionnellement et qu'est-ce que ça implique derrière comme effort aujourd'hui et comme attitude et posture à adopter dès aujourd'hui pour optimiser ses chances de bien vieillir professionnellement. Voilà les graines que je voulais poser, planter plutôt dans votre esprit avec cet épisode. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle. J'espère que ça ne fait pas plus d'une heure et demie. Et voilà, très preneuse évidemment de vos feedbacks. Je suis sûre que vous aurez tellement d'anecdotes. Dans les deux sens probablement d'ailleurs, hein, dans le sens de personnes qui ont oublié de vieillir, qui n'ont pas su adopter une posture plus mature, et aussi dans le sens de peut-être de personnes qui sont devenues vieilles avant l'heure. J'ai hâte de vous lire parce que je sens qu'il va y avoir des anecdotes croustillantes. J'hésiterai pas à les partager évidemment en retour. D'ailleurs, je crois que j'ai eu des retours à la suite du dernier épisode. Et mea culpa, J'ai pas fait mon petit recueil avant de commencer cet enregistrement. J'irai regarder pour vous. Ah si, il y a eu deux, trois trucs qui m'ont fait complètement halluciner. S'il y a eu des trucs qui m'ont fait complètement halluciner. Mais vous savez quoi, je vous laisse en suspense et pour le coup, je me note. Il y a notamment deux témoignages de demandes par les cabinets que les collaborateurs contribuent au marketing et au biz dev du cabinet que j'ai trouvé hallucinante. Mais genre vraiment hallucinante. Donc en fait, si, évidemment que je les ai là, les deux en tête. Et donc, promis, j'oublierai pas de vous en parler la prochaine fois. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dans 2 semaines. Salut!